Alors, vous pouvez prendre des notes, évidemment, sur les deux côtés. Ce matin, on a un petit problème de brocheuse. Donc, il y a des feuilles brochées, il y en a qui ne le sont pas. On continue à regarder les attributs de Dieu ce matin. Et on va parler ensemble des attributs communicables de Dieu. OK, alors on va dire un mot de prière, puis on va commencer. Père, merci pour le toit qu'on a au-dessus de nous, Seigneur. Quelques heures après que la neige ait terminé de tomber, on est toujours à l'abri, au chaud, Seigneur, et on est là disponible pour pouvoir chanter tes louanges tout à l'heure, pour pouvoir étudier ta parole. Vraiment, Père, tu nous as placés dans un pays d'abondance. Et comme Paul le demandait, Seigneur, on peut dire vraiment que nous avons beaucoup de liberté pour vivre notre foi. Une liberté physique, une liberté aussi de religion, Seigneur, de confession de foi. Mais en plus, tu nous as placés dans un pays d'abondance, Seigneur, et on est bien. Je veux te remercier, Père, pour les frères et sœurs qui sont là. Je te demande de nous bénir. J'étais touché, ému par ta beauté encore en regardant, Seigneur, tes vertus, tes qualités. Je te prie, Seigneur, de nous édifier, de nous aider à comprendre ces choses et à s'émerveiller aussi devant ces aspects de ta personne tellement merveilleuse. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Alors, la semaine dernière, on a parlé... Bonjour, salut Diane. La semaine dernière, on a commencé à parler des attributs de Dieu. On a parlé des attributs incommunicables de Dieu. J'ai pas le temps de tous les regarder, d'accord? Donc, il y a des catégories qu'on va survoler ensemble ce matin. On va survoler une catégorie aussi. On va en voir certains, mais c'est ça. C'est un survol qu'on fait. Donc, des fois, je vais plus vous mettre en appétit que de vraiment aller voir la matière. Autrement, on va être encore sur la personne de Dieu au mois de juin. Et puis, on veut faire un survol de l'ensemble des doctrines. Ce matin, on parle des attributs communicables de Dieu, c'est-à-dire ceux qu'il partage davantage avec nous. Il n'y a pas de catégorie parfaite. Vous allez voir, lorsqu'on dit qu'ils sont communicables, on essaie de comprendre en quoi on est créé à l'image de Dieu. Je vous dirais une des manières de voir cette question-là, là, au haut de la page de votre deuxième feuille, la page 3. En quoi Dieu est-il semblable à nous dans son être et dans ses attributs intellectuels et moraux? Une manière de voir cette question-là, c'est simplement de se rappeler qu'on a été créé à l'image de Dieu et en quoi est-ce que nous ressemblons à Dieu? D'accord? Quelles sont les qualités, les caractéristiques de Dieu qu'il veut partager avec nous? Wayne Grudem les a comme classés. Juste pour nous aider à mettre ça un petit peu en ordre, fait que vous avez là un tableau et ce matin, on va en voir 3-4 de ce tableau-là seulement. Donc, les attributs décrivant l'être de Dieu comme personne, les attributs intellectuels, les attributs moraux, les attributs volitifs, ça veut dire qui concernent sa volonté, sa capacité de choisir, de décider. Donc, on parle de la volonté, de la liberté, de l'omnipotence. Il est tout-puissant pour choisir. Et puis, les attributs généraux, la perfection... La perfection, la béatitude, ou c'est-à-dire l'état d'être heureux, la félicité, vous êtes avec moi au bas de la page 3, la beauté, la gloire. D'une certaine manière, tous ces attributs-là, Dieu nous les communique. C'est plus ou moins vrai, vous allez voir. Et ça dépend desquels. Évidemment, on n'a pas l'intention de devenir monsieur, madame invisible. Fait qu'on va voir un peu en quoi est-ce que Dieu nous communique ça, d'accord? Il ne nous est pas possible de voir chacun des attributs, c'est ça. Je l'ai mentionné, je m'excuse. Donc, je vais juste en prendre quelques-uns là-dedans. Cette semaine, je dois décider si on continue sur les attributs ou on pense à la Trinité, là, mais il faut que je vois si je peux me permettre d'étirer un petit peu sur les attributs, d'accord? La souveraineté de Dieu, on va y revenir un peu plus loin aussi lorsqu'on va parler du choix de l'homme. Oui, c'est ça. Fait que ça, cette question-là, on va y revenir. Fait que oui, on va en parler. Pas nécessairement ce matin. Alors, les attributs décrivant l'être de Dieu, la spiritualité. Les gens se sont souvent demandé de quoi Dieu est-il fait? Est-il fait de chair et de sang comme nous? Certainement pas. Ça, c'est clair pour les chrétiens. De quoi son être est-il constitué? Dieu est-il fait de matière? Ou Dieu est-il pure énergie? Ou est-il, en un certain sens, pure pensée? Et lorsque vous... Oui, on le sait. On va le voir ensemble. Lorsqu'on dit pure pensée, ben admettons le Dieu de Einstein. En gros, c'est ça. Einstein, celui qui a inventé la théorie de, qui a découvert la théorie de la relativité. Einstein, dans sa vision, il y a une pensée, il y a une intention derrière l'univers. Donc, il y a un grand design, si je peux dire. Tout ça se tient, peut être conçu à quelque part. Mais Einstein ne concevait pas Dieu. Einstein ne concevait pas Dieu comme un être, comme une personne. D'accord? Fait que c'est dur à suivre, là. Mais lorsque Dieu regardait toute lorsque Einstein regardait tout l'univers, le système, comment tout ça se tient, il dit, c'est pas juste le fruit d'un accident, il y a quelque chose quelque part. Mais il définissait Dieu plus comme, à la limite, j'aurais le goût de dire quasiment comme une équation mathématique. Si on pourrait dire c'est l'équation mathématique première ou la pensée première, mais ce n'est pas un être personnel. Et il était pas non plus, il croyait pas non plus que Dieu existait, il avait créé tout l'univers, puis il s'était juste poussé, puis c'est juste pour ça qu'on ne pouvait pas savoir. Parce qu'il y en a qui croient ça. Il y en a qui vont dire, bien, il y a un créateur à quelque part, ça, c'est sûr. Mais c'est évident qu'il ne s'est pas fait connaître à nous. Il est parti ailleurs. Fait que c'était pas ça non plus. C'était une pure pensée, on pourrait dire, ou une pure idée dans la vision d'Einstein. D'autres vont penser que Dieu est une énergie. Puis le bouddhisme, quand tu prends le temps de regarder comment ça fonctionne, ça ressemble un petit peu à ça comme idée. Dieu, ce serait une espèce d'énergie. La parole de Dieu nous dit dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit. Et c'est ça le meilleur descriptif qu'on a de Dieu dans ce qu'il est dans son être. Il n'est pas qu'une pensée, c'est un esprit. Une pensée, ça peut être juste une idée. Il n'est pas juste de l'énergie non plus, il est un esprit. Donc, c'est une personne à quelque part, un esprit. Tu ne peux pas visualiser un esprit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va parler de son invisibilité. Mais Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Fait que lorsqu'on veut penser à Dieu, premièrement, lorsqu'on veut penser à son être, on doit penser à Dieu comme étant un esprit. Ce n'est pas de l'énergie, c'est un être personnel. Ce n'est pas juste une pensée, c'est un être qui a une pensée, qui lui-même est capable de prendre des décisions, tout ça. Mais en même temps, il est totalement autre que nous parce qu'il est un esprit. Fait qu'on ne peut pas le voir. La question de Diane, c'est est-ce qu'il y a une différence entre Dieu le Père puis Jésus, qui est Dieu le Fils, qui s'est incarné? Oui, puis on va arriver à ça. Je vais juste vous demander de lever la main, OK? Mais oui, fait qu'on va arriver à ça, justement. Lorsqu'on parle de l'invisibilité de Dieu, ben Dieu n'est pas tout à fait invisible si Dieu le Fils est visible. Vous voyez, fait que on va arriver à cette question-là. Mais il demeure que Dieu, essentiellement, dans son être, est un esprit. Ainsi, comme nous le mentionnons la semaine dernière, si Dieu est esprit, il ne peut entrer dans aucune catégorie de grandeur. Il est esprit et il est infini. Ce ne serait pas juste non plus d'imaginer Dieu comme étant étendu sur tout l'univers. Tu sais, comme moi, je suis grand comme ça, fait qu'on pourrait dire que Yannick couvre de là à là, mais Yannick n'est pas également présent partout. Je veux dire, ici, vous avez mon doigt, puis mon cerveau, s'il est là, c'est juste parce qu'il est connecté avec mon doigt, parce que mon cerveau, il est ici, mon cœur aussi. Fait que ce serait faux d'essayer d'imaginer Dieu comme étant étendu dans tout l'univers, puis donc il couvre tout, il est immense. C'est plus que ça. On l'a vu la semaine dernière dans son omniprésence, il est partout à la fois en tout temps. Puis son attention est partout à la fois en tout temps. Donc Dieu n'est pas juste immense puis répandu sur tout l'univers. Dieu est esprit. Ça nous aide à comprendre un peu que Dieu est partout en tout temps si on voit l'idée qu'il est esprit. Cette caractéristique de Dieu, c'est-à-dire le fait qu'il soit esprit, aide à comprendre que Dieu est constamment interdit à son peuple de se faire une représentation quelconque de sa personne en comparaison avec la création. Alors, rappelez-vous, si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui tenait énormément à cœur à Dieu, c'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur, qu'on ne fasse pas de représentation de sa personne. Si Dieu est esprit, quel que soit l'élément de la création qu'on va prendre pour essayer de le représenter, à quelque part, ça va fausser la donne. Ça va toujours être en dessous de ce qu'il est. Oui, Diane. Oui.
Puis tu te demandais quand est-ce que si j'offense Dieu, à quel moment ça le rejoint.
Mm-hmm.
Mais est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose, la prière? Si on prie pour une requête de prière quelconque, est-ce que ça se perd dans l'espace-temps? Ou,
je peux faire... Non, on a une réponse. Des fois, c'est des silences, mais on a une réponse. Mais là, tu reviens sur la matière la semaine dernière par rapport à la prière. Je peux faire une toute petite parenthèse, là. Mais, ouais, c'est ça. Tu reviens sur toute la question du temps. Tout ce que j'ai voulu donner comme piste de réflexion pour nous à la fin du cours, puis qui peut être édifiant pour nous, c'est simplement de réaliser que, par exemple, par rapport à la prière, moi, quand je prie, je m'inscris dans la ligne du temps, puis je prie aujourd'hui. Puis si demain, je ne prie pas, ben je veux dire, il y a des bonnes chances que j'oublie ma prière. Mais Dieu est à l'extérieur du temps. Dieu voit simultanément tous les temps en même temps. Fait que... Par exemple, lorsqu'on parlait de... Je trouve que l'illustration est plus forte avec avec la repentance, avec le péché. Si j'ai péché, puis que je me repens, à quel moment est-ce que Dieu il arrête de penser à ce que j'ai fait? À quel moment il va oublier ça? À quel moment est-ce qu'il va commencer à être attristé pour mon péché de demain si lui est à l'extérieur du temps? Fait que si Dieu a décidé qu'il me faisait grâce et qu'il est à l'extérieur du temps, c'est qu'il voit tous les temps en même temps. S'il a décidé de me faire grâce, c'est en connaissance de cause, en titi. C'est ça. Quand moi, je décide que Sam, je sais pas, moi, il me donne un coup de pied sur le tibia, puis je dis « OK, Sam, c'est correct. » Puis demain, il recommence. Puis après-demain, il recommence. Je ne sais pas combien de fois il va le faire encore. Puis, tu sais, naïvement, je peux lui dire, Sam, c'est correct, c'est beau, je te pardonne, c'est beau, tu m'as donné un coup de pied sur le tibia, tu sais. Mais je ne sais pas que demain, il arrive avec un bat de baseball. C'est plus un pied, c'est un bat, tu sais. Fait que moi, naïvement, je dis, bien, je te pardonne. Maintenant, demain, ça se peut que je regrette, puis que je dis, ah, j'aurais jamais dû le faire. Dans mon humanité, quand Dieu, puisqu'il est hors du temps, choisit Yannick, puis il dit, toi, tu vas être mon enfant, Dieu voit simultanément mon passé, mon présent, mon futur, tout en même temps, puis il décide de me choisir. Oui, partout, tout à fait, qui fait toutes sortes de niaiseries. Oui, mais c'est ça, moi aussi je serais mêlé si j'étais Dieu, mais ça j'y laisse ce petit morceau-là. Où est-ce que nous en étions? OK, Exode 20, 4 à 6. Pourquoi est-ce que Dieu a tellement, tellement à cœur à ce que on ne fasse pas de représentation de lui à partir de la création? Parce qu'il est esprit. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération, et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Non seulement Dieu ne voulait pas qu'on se crée un Dieu à partir de la création puis qu'on adore un autre Dieu que lui, mais il ne voulait pas qu'on fasse de représentation de lui non plus. C'est ce qu'Israël a essayé de faire avec le veau d'or. Ils l'ont appelé comment leur Dieu, le veau d'or? L'Éternel. Ils l'ont appelé l'Éternel. Ils se sont fait un veau en or puis ils l'ont appelé l'Éternel. Ils ne l'ont pas appelé Baal, ils l'ont appelé l'Éternel. Dieu dit non, tu ne peux pas faire ça. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de répondre à la question de Diane? Est-ce que ça veut dire, par le fait même, que Dieu est contre, admettons, le fait qu'on ait un crucifix? Est-ce que lorsque j'ai cette loi-là ici dans Exode 20 qui m'est donnée, qu'est-ce que ça implique par rapport au fait, mettons, qu'il y en a qui vont avoir un... C'est ça. Je vais juste faire participer les autres aussi. Oui. Il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Est-ce que ça veut dire, selon vous, que clairement Dieu est contre toute représentation, même de Jésus, admettons? Est-ce que vous portez une croix? Non? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas le droit de faire une représentation de Jésus, admettons? C'est ça. C'est pas ça, mais je ne vous demande pas si on en a besoin. Ce que je vous demande, c'est est-ce que je suis en train d'enfreindre cette loi-là si j'ai une représentation de Jésus, admettons? Si je fais une toile, moi, là, je suis un peintre, là, puis je fais une toile, puis je dessine Jésus. Est-ce que je suis nécessairement en train d'aller contre ça? Non, je ne suis pas en train d'aller contre ça. Maintenant, si je faisais cette toile-là pour l'adorer, ça, c'est une autre affaire. Exactement. Parce que Jésus est venu physiquement, là, vous comprenez? Maintenant, si j'essayais comme d'illustrer un esprit qui représenterait le Dieu le Père, je pense que là, vraiment, je m'égarerais. Parce qu'il n'est pas visible, c'est un esprit. Tandis que le Christ, c'est Dieu le Fils visible. D'accord? Et à ce moment-là, si je n'en fais pas un culte, si je ne suis pas en train de faire un culte à cette représentation-là, je suis en train de représenter une réalité qui était sur la terre, qui était Christ, puis c'est pour me souvenir, pour raconter son histoire. D'accord? Je continue. Avant toute création, Dieu existait en tant qu'esprit. Son être est tellement réel qu'il a été capable d'amener tout le reste à l'existence. Fait que, avant que Dieu crée, tout ce qu'il était, c'était esprit. Puis ce n'est pas quelque chose d'irréel. Pour nous, un esprit, c'est comme du vent un peu. Mais de cet esprit-là, là, tout ce qui est la matière autour de vous existe à partir de cet esprit-là. Donc, il était bien réel, même s'il était totalement invisible à l'œil humain, même si pour nous, il n'était peut-être pas perceptible si on avait été là avec nos sens. De cet esprit-là, bien réel, tout ce qui existe vient. Il était là. Il était bien là. Oui. À la création, est-ce que la Trinité est présente? Oui. Ouais. Voici la définition que Wayne Grudem nous donne de la spiritualité de Dieu. La spiritualité de Dieu signifie que Dieu existe en tant qu'être qui n'est fait que d'une matière, n'est pas composé de différentes parties, n'a pas de dimension. Nous, on a une dimension physique, par exemple. On a une dimension. Dieu n'a pas de dimension. Ne peut être perçu par nos sens corporels et est supérieur à toute autre sorte d'existence. On pourrait définir comme ça le fait que Dieu est esprit. Alors, Dieu est d'abord et avant tout esprit. Cela pourrait sembler étrange de placer cet attribut parmi les attributs communicables. Cependant, nous devons reconnaître que la parole de Dieu nous apprend que Dieu a créé l'homme avec un esprit et que cet aspect de l'homme est fondamental à sa communion avec Dieu. Alors, moi, je ne serai jamais seulement un pur esprit, c'est clair que même dans la résurrection, il est question d'avoir un corps. Okay? Fait que l'être humain, pour être entier, il y a un corps en tout temps. Donc, je ne serai jamais un pur esprit. Mais en même temps, Dieu nous a créés avec un esprit, puis c'est un aspect fondamental de notre communion avec lui. D'accord? Donc, un attribut où on ressemble à Dieu d'une manière unique dans toute la création. Ça va? L'invisibilité de Dieu. L'invisibilité de Dieu signifie que nous ne serons jamais en mesure de voir la totalité de son essence, l'ensemble de son être spirituel. Cependant, Dieu se montre à nous à travers les choses visibles qu'il a créées. Alors, je ne crois pas qu'un jour je vais saisir entièrement la personne de Dieu. D'accord? C'est Dieu. Il est esprit et fondamentalement, je ne pourrai jamais saisir son être entier. La parole de Dieu nous dit que celui qui sonde Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Ben, moi, je ne pourrai jamais saisir entièrement la personne de Dieu. Dieu est infini. Fait que je vais juste retourner à ma définition. L'invisibilité de Dieu signifie que nous ne serons jamais en mesure de voir la totalité de son essence, de ce qu'il est comme être, l'ensemble de son être spirituel. Cependant, Dieu se montre à nous à travers les choses visibles qu'il a créées. Fait qu'on va aller vers la révélation parce qu'il, je veux dire, il est devenu visible, ce Dieu invisible. Oui, Linda. C'est une bonne question, oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'on place les anges dans la même catégorie? J'ai pas. C'est une bonne question, ça. Ouais, c'est quoi la question? Vas-y donc, Linda. Ça va me donner du temps pour avoir de l'air intelligent, s'il te plaît. Parle un peu, fais du remplissage, là.
On va essayer de se démêler. Non, non.
Non, non, c'est une bonne question.
On sait que les anges existent. Mm-hmm. Alors, les anges, on ne les voit pas. On sait qu'ils prennent la forme d'homme quand l'Éternel l'en décide. Est-ce qu'on les considère dans la même invisibilité de Dieu? Parce qu'on sait qu'ils vont dans la présence de Dieu chercher... ils sont à leur service. Mm-hmm. Ils sont, c'est ça. Fait que comment je définis...
Okay.
En tout cas, je ne sais pas trop comment la poser.
Oui. Bon, mais par exemple, là, prenons un exemple concret, les esprits un peu. Des esprits. Fait que dans ce sens-là, ils sont esprits comme Dieu est esprit. La différence que je ferais dans ce que Grudem veut illustrer, c'est que lui, il prend l'invisibilité de Dieu puis le fait qu'il est esprit pour nous aider à comprendre ce que Dieu est dans son être. Puis, il associe l'invisibilité de Dieu avec le fait qu'on ne pourra jamais entièrement saisir l'essence de Dieu. Fait qu'il joint ça un peu au fait qu'il est infini. OK? Grudem se dit, puisque Dieu est Dieu, puisque Dieu est immense, puisqu'il est esprit, puisqu'il est invisible, personne ne pourra jamais le sonder entièrement. Seul Dieu peut le faire. Et donc, dans ce sens-là, je ne le comparerais pas aux anges. Parce que les anges sont des êtres finis. D'accord? Par opposition à infini, ils ont une finitude. Pas une finitude, mais ils sont finis. Ils sont limités dans l'espace. Même s'ils sont esprits. Ils ne sont pas omniprésents non plus. Ils ne sont pas partout à la fois, même s'ils sont esprits. Et donc, dans ce sens-là, il y aurait une limite, mais en même temps, ils sont esprits comme Dieu est esprit, puis ils se manifestent. Ils sont esprits. Oui, c'est ça, c'est ça. Dans leur essence, ils ne sont pas Dieu. Comprenez? Ils sont esprits comme Dieu est esprit, mais ils ne sont pas... Là, je m'en allais dire une niaiserie. Je m'en allais dire le grand esprit, mais là, on est rendu dans l'animisme indien. Je m'excuse.
Il dit quelque part que personne ne peut voir Dieu et survivre. Mais dans l'Ancien Testament, quand Moïse va sur la montagne... Là,
on arrive juste là. Ça ne sera pas long. C'est les théophanies. On arrive exactement à ça.
Mais il l'a vu?
Ben, Moïse, oui, dans un sens, il l'a vu. Dans un sens, il ne l'a pas vu. Puis dans un sens, on va le voir.
Puis dans un sens, il y a seulement Adam et Ève qui l'auraient vu, puisqu'ils disent... Ils marchaient dans le jardin avec
lui. Oui, bonne question. Bonne question. Il faudrait demander à Adam et Ève, ça ressemblait à quoi quand tu marchais avec Dieu? C'est comme t'entendais-tu poum, 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 ou... Fait que je ne sais pas. On n'a pas beaucoup de descriptions, mais peut-être. Peut-être. Mais j'arrive exactement à ce que tu soulèves là, OK? Ce ne sera pas long. Laissez-moi me retrouver dans mes affaires. En haut de la page 5, Jean 1, 18. « Personne n'a jamais vu Dieu. » Arrêtez là. Personne n'a jamais vu Dieu. D'accord? Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Fait que c'est Christ qui nous le révèle, mais personne n'a jamais vu Dieu. 1 Timothée 1, 17. Ô roi des siècles immortel, invisible. Fait que Paul décrit Dieu comme celui qui est invisible. Invisible, on peut oublier le sens de ce que ça veut dire. Ça veut dire non visible. D'accord? Donc, on ne peut pas le voir. Il est non visible. Seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui, qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Fait que Jean est en train de dire dans 1 Jean qu'une des manières les plus concrètes qu'on va voir la présence de Dieu, c'est à travers l'œuvre de son esprit dans notre cœur. Puis son argument, c'est parce que vous ne le verrez pas physiquement. Vous allez voir les fruits, vous allez voir ce qu'il fait dans votre vie. Plusieurs de ces passages ont été écrits dans un contexte de manifestation de Dieu, par contre. Fait qu'on aurait pu aller voir, là, puis je les mentionne un petit peu plus bas, justement, les apparitions avec Abraham, Jacob, les colonnes de nuée, de feu, c'était une manière pour Dieu de manifester sa présence, de devenir, entre guillemets, visible. Je les donne un petit peu plus loin, là, les références pour ça. Alors, en plusieurs de ces situations-là, là, c'est en même temps que Dieu nous dit qu'il est invisible, il se manifeste. D'accord? Alors, en même temps qu'il est invisible, que l'homme ne peut pas le voir avec ses yeux, Dieu va trouver un moyen de se manifester et de devenir plus concret à notre regard, à notre compréhension à nous. Nous trouvons, par exemple, plusieurs théophanies. Les théophanies, c'est des apparitions de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est à ça que tu faisais allusion. Les théophanies, c'est des apparitions de Dieu. Dieu se manifeste alors aux hommes de diverses manières pour devenir visible. Dans la rencontre avec Abraham, lorsqu'il y a trois hommes qui viennent vers lui, puis là, tu essaies de comprendre, puis finalement, tu, par déduction, le plus probable, c'est que... Est-ce que vous vous rappelez de la scène? Les hommes, les anges qui s'en vont à Sodome, puis tout ça, dans tout le débat, bien, il y en a trois qui arrivent, il y en a deux qui partent, il en reste un, puis Dieu continue à parler avec quelqu'un, c'est Dieu. Donc, par déduction, on dit, « Oh, OK, attends un petit peu. Il y a trois hommes qui sont arrivés, mais en fin de compte, Dieu était là parmi les trois hommes. » Tu voulais dire quelque chose? T'avais de l'air? Oui, c'est ça. Alors, à plusieurs reprises, on a ce qu'on appelle des théophanies. On a des apparitions de Dieu où Dieu trouve une manière de se manifester aux hommes, de devenir visible pour nous. Jésus-Christ lui-même est l'ultime manifestation de Dieu. Jésus lui-même déclare dans une parole puissante, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Alors, dans l'Ancien Testament, vous avez des moments où Dieu se manifeste, puis quand Dieu se manifeste, tu dis, ouais, mais c'est parce qu'il avait comme la forme d'un homme. Quand tu arrives dans le Nouveau Testament, mais tu n'as pas un homme que tu rencontres, puis qui dit, hey, by the way, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Comprenez? C'est comme si un moment, c'est une chose qui se passe. Là, lorsqu'on arrive avec Jésus, c'est une autre histoire. Il y a un petit bébé qui est né dans un village, puis tu sais, qui a fait tout ce que tous les autres êtres humains font, puis qui a appris à marcher, toute la quête. Puis à un moment donné, il a dit, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Là, on passe à un autre niveau, là. Puis on comprend qu'ils ont voulu le mettre à mort. Parce que là, dans leur tête, c'est non, attends un petit peu, là. Et donc, on s'en va vers la doctrine de la Trinité, là. D'accord? La Trinité, c'est une compréhension de Dieu qui est unique au christianisme. Le judaïsme n'accepte pas l'idée de Trinité. L'islam, c'est un blasphème total, cette affaire-là. Ils ne comprennent pas qu'on peut être monothéiste, croire en un seul Dieu, puis croire dans la Trinité. Pour eux, nous, on croit en trois dieux, peut-être. Mais on ne croit pas en un seul Dieu. Oui, Diane. La Trinité, ça va être un autre sujet, là, mais je vais juste ouvrir les pistes.
Comprendre l'épisode de Jacob où il a lutté avec Dieu puis il a reconnu que c'était Dieu parce qu'il a demandé de le bénir. Donc,
oui.
Puis il a reconnu qu'il était. Il dit mon âme a été.
C'est une théophanie, c'est une apparition de Dieu.
Oui, mais à ce moment-là, c'est ça, c'est le Père ou.
Bon, c'est ça. Fait que là, j'arrive à ça. Généralement, je vais juste terminer mon petit paragraphe sur Jésus, puis je réponds exactement à ça, Diane. Jésus-Christ lui-même est l'ultime manifestation de Dieu. Jésus lui-même déclare dans une parole, je m'excuse, j'avais déjà lu, l'apôtre Jean développe sa christologie en exposant le fait que Christ est la révélation de Dieu. Rencontrer le Fils, c'est rencontrer le Père. L'évangile de Jean, là, c'est l'évangile de la christologie, c'est-à-dire de la divinité de Christ par excellence. D'accord? C'est là que c'est le plus clair, que c'est le plus évident, que c'est le plus manifeste. C'est évident aussi dans plusieurs autres passages du Nouveau Testament, mais Jean en particulier. Et tout l'argument de Jean sur Jésus, c'est que Jésus, c'est la parole de Dieu. Hein? Dans le début de l'Évangile de Jean, c'est quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Par elle, toutes choses ont été créées. Puis là, on arrive au verset 14, et elle a été faite chair, elle a vécu parmi nous. Donc, dans la compréhension de Jean, puis dans ce que Dieu lui a révélé, Jésus est la parole de Dieu. Avant d'être Jésus, là, il était Dieu, il était dans Dieu, plus spécifiquement, il était la parole de Dieu. Fait que généralement, à partir de ça, lorsque tu mets ensemble le fait que Dieu est invisible, tu ne peux pas le voir, mais il y a des moments où il se manifeste et il apparaît sous la forme d'un homme. Lorsque tu prends des paroles comme les paroles de Jésus, lorsqu'il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », lorsque tu prends la compréhension que Jean a du rôle du Fils dans la Trinité, c'est lui la parole, c'est lui qu'on entend, c'est lui qui s'est fait chair. Généralement, on va avoir tendance à conclure que les apparitions dans l'Ancien Testament, c'est probablement le Fils qui se manifeste là. Puis je ne pense pas avoir jamais lu personne qui s'opposait à ça. Stéphane, as-tu déjà lu quelque chose? C'est par déduction qu'on le fait. Mais par déduction, on va dire, puisque dans la Trinité, chaque personne a son rôle, toute apparition de Dieu, c'est une manifestation du Logos, de la parole, du Christ. Ce n'est pas encore Jésus. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il est apparu, il y avait les traits du Jésus qui allait naître à Bethléem. Mais c'est lui qui se manifeste, parce que c'est lui qui est visible. D'accord? Puis on va voir ensemble, lorsqu'on s'en va dans l'Apocalypse, mais encore là, on va voir Dieu dans l'Apocalypse, mais quand c'est clair, qui on va voir, c'est l'agneau que tu vas voir. Oh, ça, c'est une grosse question. Ce ne sera pas ce matin. Paul nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, Colossiens 1:15. Et plusieurs passages amènent à penser que le Fils de Dieu sera à jamais la manifestation ultime de Dieu. Car d'une part, il nous est dit que nul ne peut voir Dieu, et d'autre part, des promesses merveilleuses nous sont données, comme celle dans Matthieu 5:8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tournez avec moi dans l'Apocalypse. Okay, juste pour vous réveiller, là. Il y en a qui commencent à ronfler. On va tourner ensemble dans l'Apocalypse. On va aller voir dans l'Apocalypse. On va aller dans l'Apocalypse 5. Laissez-moi juste voir où est-ce que ma section termine. Commençons juste un petit peu avant, Apocalypse 1:4. Apocalypse 1, verset 4. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Quand il nous dit de celui qui était, qui est et qui vient, ben on s'enligne vers une définition de Dieu. Maintenant, on sait aussi que c'est Christ, ça c'est clair. On avance un petit peu plus loin, 4, 2 et 3. Apocalypse 4, 2 et 3. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour, je vis 24 trônes, et sur ces 24 et sur ces trônes, 24 vieillards. Je vais avancer un tout petit peu plus loin. Chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. On sait qu'on s'en va vers Christ. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alors là, c'est Christ qui est assis sur le trône, d'accord? L'agneau, c'est Christ. Ça, c'est clair. C'est l'agneau immolé. Oui. Verset 11. « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Dans les comportements des êtres qui sont là, ils sont en train d'adorer. D'accord? Ils sont en train d'adorer. Maintenant, l'autre référence que je cherche, je crois, c'est dans Apocalypse 22. Pour mettre ça ensemble. Apocalypse 22, 1. « Il me donna, il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Lorsqu'on arrive à la fin, la description qui nous est donnée, c'est qu'il y a un trône où Dieu et l'agneau est présent. OK? Verset 3, « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. » Quand on arrive dans l'Apocalypse, là, la manifestation visible de Dieu, c'est encore Christ. C'est encore l'agneau. Puis il nous a dit qu'on va voir Dieu face à face, mais chaque fois que c'est quelque chose de plus concret que de voir un esprit devant nous, c'est Christ qui est là. Puis ici, il y a une espèce de... Il y a un trône, c'est le trône de Dieu et de l'agneau. Et ceux qui sont prosternés sont en train de prosterner celui qui est là. Puis lorsqu'il nous est décrit plus que celui qui est là, il nous est décrit comme l'agneau. Bonne question pour le cours d'eschatologie. Et donc, ce qui nous amène à dire, Dieu est invisible, mais Dieu a décidé de se manifester progressivement aux hommes à travers toute l'histoire des Écritures. Et la manifestation ultime de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est apparu. Et dans l'éternité, ce Dieu que nous allons voir face à face, c'est le Christ, c'est lui qui va être devant nous. Et c'est lui qu'on va adorer. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou des commentaires? J'ai pas de description, j'ai pas rien dans les Écritures qui me disent qu'un jour Dieu va arrêter d'être un esprit, Dieu le Père. J'ai pas aucune. Puis que le Saint-Esprit va être plus visible qu'être un esprit en nous. Fait que l'aspect visible de Dieu constamment, à part dans des, comme je dis, dans des théophanies, dans l'Ancien Testament, où il y a des choses un peu spéciales, lorsqu'on sait clairement de qui il s'agit dans la Trinité, là, c'est le Christ, tout le temps. Oui. Oui, c'est une bonne question. Ben, OK, la question de Stéphane, c'est, les Écritures nous disent que les anges voient la face de Dieu. Est-ce qu'ils voient Christ? Qu'est-ce qu'ils voient s'ils voient la face de Dieu? La première question que je me poserais, c'est est-ce que littéralement, il est en train de nous dire qu'il voit les traits de Dieu, puis ce matin-là, est-ce qu'il s'est rasé ou non? Ou est-ce qu'ils sont dans la présence de Dieu? Fait que l'idée qu'ils voient la face de Dieu, est-ce que c'est nécessairement un langage qu'il faut prendre first value, tu sais, littéralement, puis dire, bon, ben, il n'y a personne là, qui a vu la face de Dieu, mais les anges, eux autres savent qu'il y a un grain de beauté ici. T'sais. Ils ont vu sa face vraiment. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Ça serait une question à se poser. Là. Ça serait une bonne question. J'aurais tendance à croire que c'est Christ de toute éternité qui a été la manifestation de Dieu. Maintenant, est-ce qu'un esprit peut voir un esprit? Peut-être c'est ça. Ça reste un mystère. Mais de comprendre un peu mieux ça nous aide à comprendre l'importance de Christ, d'accord? Ça vient nourrir notre adoration. Ça vient nourrir notre louange parce qu'on réalise qui est Christ puis l'importance du geste qu'il a posé en venant sur la terre. Dieu n'a pas détaché, il n'a pas envoyé un de ses sous-fifres, un de ses subalternes. Puis tu vas aller faire un job, il faut aller sauver des hommes, ça en prend un qui sacrifie. Non, non. C'est Dieu le Fils qui va être l'expression même de la personne de Dieu dans l'éternité qui est venu sur la terre mourir sur la croix pour nos péchés. C'est pas. Lorsqu'on dit que Dieu s'est humilié, que Jésus-Christ s'est humilié, c'est celui qu'on va adorer pour l'éternité, celui que les anges tremblent devant sa face. C'est lui qui est venu marcher parmi nous, puis qui a accepté qu'on le méprise, puis qu'on le rejette. J'ai deux autres questions. Oui. Oui. Vas-y. Oui.
Le vignoble, comment est-ce qu'on dirait ça, le vignoble? Non.
Le vigneron.
Le vigneron. Qui envoie ses serviteurs réclamer ses biens, puis il tue les serviteurs, il finit avec son fils. Fait ouais. qu'on peut encore là appuyer ce que tu viens de dire, que c'est le fils en réalité qui est toujours...
Qui est toujours visible.
Oui, c'est ça.
Oui, oui. Merci.
Penser, nous autres, on est corps, âme et esprit.
Oui.
On ne voit pas notre âme, on ne voit pas notre esprit, mais on voit notre corps. C'est,
tu veux faire un parallèle avec la Trinité, admettons?
Le prend un parallèle avec la Trinité.
Oui, c'est un, oui je comprends. Maintenant, dans un sens, oui, dans un autre sens, non. Dans le sens que c'est un grand débat. Là. Est-ce que l'esprit et l'âme, c'est comme essentiellement la même chose? Est-ce qu'on est composé de deux parties ou de trois? On va probablement l'aborder brièvement lorsqu'on va faire l'anthropologie. Oui.
Moi, j'aimerais revenir avec Jacob, là, l'épisode où il lutte avec Dieu. Mais au début, c'est pas clair que c'est Dieu, là, mais je comprends pas pourquoi Dieu a lutté avec Jacob. Est-ce que c'était pour... qu'il a laissé gagner? Est-ce que c'était pour... démontrer que c'était un acte d'humilité de Dieu, de s'abaisser à lutter avec un être humain et que l'être humain le...
Non, je pense pas qu'il y avait un élément d'humilité. Là. Je pense pas. En fait, il a déboîté Jacob. Mais c'est clair que ça parle de la relation, puis c'est clair que ça parle du fait que Dieu veut être près de nous, puis que Dieu veut être près d'être orgueilleux comme Jacob, puis comme moi. C'est clair que ça parle de tout ça, puis de cette relation-là, puis du fait que Dieu voulait que Jacob désire être béni de Dieu, puis en même temps que Jacob soit humilié, puis Jacob a gardé cette humiliation-là le restant de ses jours en boitant. Mais...
Tu as lutté, quand il dit qu'il va changer de nom,
oui.
Tu as lutté contre Dieu et contre les hommes, et tu as vaincu.
Oui, c'est une bonne question. Je t'avoue, faudrait que je médite dessus pour trouver une réponse. Oui, c'est ça. Oui. Parce que je t'avoue que je ne l'ai pas assez étudié pour te donner ma meilleure réponse. Là. Je spéculerais. C'est clair que ça illustre le fait que Dieu veut être en relation avec nous, puis que Dieu accepte de s'humilier au point de venir en relation avec des êtres rebelles comme nous. L'idée qu'il a vaincu, c'est une bonne question. Bonne question. Il y a quelque chose sur laquelle je voulais revenir. Par exemple. Oui, OK. Ce que je voulais dire, c'est... C'est vrai que c'est un mystère, d'accord, tout ça. C'est vrai qu'on ne comprend pas tout ça. Puis lorsqu'on arrive, je dis la question de Stéphane est bonne, tu sais, les anges voient la face de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'ils le voient là, comme nous, on voit avec nos yeux, ou c'est juste qu'ils ont profondément conscience qu'ils sont dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le fait qu'ils voient la face de Dieu, ça veut dire qu'ils peuvent être dans sa présence? Fait qu'il y a une part de mystère dans tout ça. Mais en même temps, il ne faut pas comme écarter ces questions-là parce qu'elles sont difficiles et elles sont complexes. Il ne faut pas juste les tasser parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont révélées. Il nous est révélé que l'homme qui a marché sur la terre il y a 2000 ans, qui est mort sur la croix pour nous, va être adoré par les anges pendant l'éternité. Et que lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse, puis on essaie de comprendre, oui, mais devant qui on va aller se prosterner, là? Mais on va aller se prosterner devant le trône de Dieu et de l'agneau. Ça, c'est mon sauveur. Fait que laissez-moi juste tirer une conclusion très, très, très pratique et très simple. Jésus et les autres divinités peuvent nous amener au ciel. Pourquoi c'est juste Jésus? Pourquoi ce serait juste par Jésus? Mais parce qu'il est mort sur la croix, c'est le seul qui est mort sur la croix pour nos péchés. Oui, mais c'est pas juste ça, c'est parce que Jésus est Dieu. Tu vas quand même pas, s'il te plaît, comparer Mohamed à Jésus. Parce qu'il n'y a pas le trône de Mohamed, de l'agneau et de Dieu. Ça n'existe pas, ça. Comprenez? Moi, je n'ai pas de trône, puis Mohamed, il n'y a pas de trône au ciel. Il y a le trône de Dieu et de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus-Christ. Fait que c'est, il y a une part de mystère, il y a une part qu'on ne peut pas saisir, mais il y a beaucoup de choses qui nous sont révélées dans la parole de Dieu où on peut apprécier, mesurer la grandeur de Christ. Et lorsque des chrétiens ont une théologie qui est un peu tout croche, puis là, ils s'en vont comme parler avec des gens, puis là, je parle avec quelqu'un d'autre, puis là, à un moment donné, je suis mal à l'aise, tu sais, d'affirmer que c'est juste par Jésus-Christ. Oui, mais c'est parce que dans l'éternité, là, tu vas juste te prosterner devant Jésus-Christ. Tu ne te prosterneras pas devant Allah, tu ne te prosterneras pas devant Mohamed, tu ne te prosterneras pas devant les dieux, devant Bouddha ou devant les Krishna. Non! Je veux dire, il y en a un, et on sait, il est venu marcher parmi nous, c'est Jésus. That's it. Et lorsque je commence à saisir ces choses-là, puis je réalise que le Dieu invisible, lorsqu'il est vraiment visible, là, en tout cas, pas autant qu'on peut comprendre, parce qu'il y a une part de mystère, c'est Jésus-Christ. Oh! Ça change quelque chose dans mon adoration, ça change quelque chose dans mon évangélisation, ça change quelque chose dans mes convictions. Puis c'est Jésus-Christ, celui qui est là sur le trône, puis celui qu'on va adorer, qui est le Dieu visible, en fin de compte, c'est l'aspect visible de Dieu. Si lui, il dit, « Toi, là, si tu places ta foi en moi, tu es mon frère. » Je pense que j'ai un bon dossier. J'ai quelque chose, là, moi, là, pour faire un bargain de l'autre bord. Je suis son frère. Parce qu'on va tous l'adorer, puis moi, je suis son frère. Vous comprenez? Fait que c'est des questions qui sont complexes, c'est vrai, puis c'est vrai qu'il y a une part de mystère, mais il ne faut pas les esquiver juste parce que c'est trop compliqué. Dieu nous a donné ces paroles-là dans la parole, dans la Bible, pour qu'on puisse saisir des choses, puis vraiment les apprécier, les mesurer, puis être édifié profondément par ça. Aviez-vous une question? Ouf, Steph. Ben, le langage de l'Apocalypse. C'est une bonne question, ça aurait été plus facile. Mais c'est clair que Dieu se révèle progressivement, puis qu'il y a une part de mystère, puis que Dieu cultive ce mystère-là. Ça, c'est clair. Je veux dire, est-ce que Dieu aurait pu, s'il avait voulu, nous expliquer ça dans un langage qui est comme plus simple pour tout le monde, c'est certain, puis il n'aurait pas eu besoin toujours de se servir de métaphore. C'est comme ça que Dieu a décidé de se révéler à nous puis de nous aider à rêver des mystères qui sont devant nous. Fait que lorsqu'il présente comme l'agneau, si tu as lu la Bible au complet, c'est pas dur de comprendre c'est qui l'agneau. T'sais, c'est pas Abraham, c'est pas Moïse, c'est pas David. Il y en a juste un agneau immolé, c'est Christ. Donc tu le sais clairement à ce moment-là. Puis ce que ça nous rappelle, c'est, ben, par exemple, pourquoi, qu'est-ce que ça donne de dire ça? Lorsqu'on dit que la seule chose que l'être humain a faite qui va être au ciel, c'est les trous dans les mains de Jésus, puis lorsqu'on dit que ce qui va être le plus grand sujet de notre exaltation dans l'éternité, c'est l'agneau immolé, c'est parce que l'Apocalypse nous dit, j'aurais pu vous dire que c'est Jésus, mais ce que je préférais dire, qui était plus important de dire que c'était Jésus, c'est que c'est l'agneau immolé. De la même manière que, moi, vous pouvez me présenter de deux manières à des gens qui viennent en visite ici. Je veux dire, c'est Yannick. Vous pourriez dire aussi c'est le papa de Jad, puis vous pourriez dire c'est un des pasteurs de l'Église. Ça dépend ce que vous voulez dire sur moi. Fait qu'il y a des gens, des fois, je suis avec eux, puis ils disent pas que je suis le pasteur, parce qu'ils sont comme mal à l'aise de s'afficher, tu sais. Ah, ça parle d'eux même, le fait qu'ils disent pas que je le suis. D'autres personnes, non, c'est important, tu sais. Fait que pourquoi ils parlent de l'agneau? Parce qu'il est en train de se révéler, il est en train de se faire connaître à nous, puis il a voulu mettre l'accent sur le rôle de Christ par rapport à son sacrifice. Oui.
ça me tourne dans la tête, fait que je vais l'apporter.
Oui.
Apocalypse 3.21, je vais le lire parce que je bégaye quand je parle devant les autres. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ah, c'est intéressant parce qu'on sait que Jésus, on est appelé à être semblable à lui, selon Romains 8. Puis l'apôtre Paul il nous dit,
c'est un petit peu offensif.
Quand Christ, la stature de Christ va être... je bégaye encore.
Oui, quand on va être rendu à la stature parfaite de Christ.
Alors, on sait que Christ est descendu en tant qu'homme sur la terre et qu'il a vaincu le péché. Et là, il nous cite dans Apocalypse 3 que celui qui va vaincre va s'asseoir avec lui sur son... Là, on va voir vraiment la face de Christ et de Dieu parce qu'on va être semblable à Christ, puis on va être comme... On va régner avec lui, assis sur son trône, et là, on va le voir face à face. On n'a plus besoin de se demander si c'est visible ou si c'est tactile. On va être semblable à lui. Là.
Oui. 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 Maintenant, est-ce que ça veut dire que littéralement, quand les anges se prosternent, moi, je vais être assis à côté de Jésus? Là, j'ai pas vraiment... J'aurais tendance à dire que non, c'est plutôt qu'on va être avec lui, on va régner avec lui. Et que là, ce serait un langage figuré dans ce cas-là. Mais il y a une partie qu'on va savoir de visu de l'autre bord, lorsqu'on va être là. Hein? Je vais avancer parce que je dois terminer dans 2 minutes, je m'excuse. Je suis perdu dans mes notes, là. Non, je ne suis pas rendu loin. L'invisibilité, mais de toute façon, j'en avais pas beaucoup, beaucoup plus long, là. Alors, c'est ça. Là, lorsque Grudem voulait classer cet attribut-là parmi les attributs communicables, ce qu'il voulait dire, c'est que bien que Dieu soit invisible, il a décidé de devenir visible pour nous et d'une certaine manière, celui qui est invisible, on va quand même le voir. Alors, Dieu est fondamentalement invisible comme être, mais il a décidé de se manifester à nous. Et c'est juste dans ce sens-là qu'il voulait dire que c'était communicable. Les attributs intellectuels, oui, mais je pense que vous allez avoir une petite lecture d'une page et demie. La connaissance de Dieu. Dieu se connaît lui-même et connaît toutes choses dans un acte simple et éternel. Je vais juste expliquer ça vite. La meilleure manière de dire que Dieu connaît toutes choses, okay, la connaissance de Dieu, on l'appelle ça parfois aussi l'omniscience, Dieu connaît toutes choses, bien, la manière la plus... inclusive, là, qui couvre tout, c'est simplement de dire Dieu connaît parfaitement Dieu. Dieu est ce qu'il y a de plus... La seule chose, le seul être qui est infini, qui est insaisissable à tout autre, et Dieu son Dieu. Donc, il en connaît pas mal. T'sais, il connaît tout, en fin de compte. Et ce que Grudem voulait dire ici, lorsqu'il disait dans un acte simple et éternel, c'est que cette connaissance-là n'est pas une connaissance après réflexion. C'est pas une connaissance. Dieu n'a pas, admettons, à se poser des questions pour dire laisse-moi réfléchir à ça, je vais voir qu'est-ce qu'il y en est. Dans son état, Dieu connaît tout. De tout temps, pour toujours, éternellement, hors du temps, Dieu connaît tout. Ça, c'est sa connaissance. Et donc, il n'y a rien qui est caché devant sa face. Hors du temps, Dieu connaît tout. Moi, je m'inscris dans la ligne du temps, je vais apprendre demain ce que je vais faire demain, de bons coups et de mauvais coups. Puis vous allez apprendre demain ce que je vais faire, certains d'entre vous, de bons coups et de mauvais coups demain. Mais Dieu est hors du temps, puis il connaît tout, simplement, c'est son état. Il connaît toutes choses, partout. C'est intéressant au niveau des implications dans notre relation avec ce Dieu-là. Quand tu prends le temps de méditer là-dessus, tu te rends compte qu'un petit peu comme Bavinck le disait la semaine dernière dans le cours, ben, comment tu fais pour fuir loin de ce Dieu-là? Ultimement, la seule manière, c'est de sauter dans ses bras. C'est fuir loin de celui qui connaît tout, tout simplement, depuis toujours hors du temps. C'est-à-dire, la seule manière de te sauver de lui, c'est de sauter dans ses bras. Tu ne peux pas aller nulle part. On va parler de la prière dans un des sujets. C'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on prierait celui qui connaît tout, qui a décidé tout, qui est souverain, tout ça? Puis là, ça parle de relation. Il faut revenir au fait que Dieu est fondamentalement un être relationnel puis qu'il va avoir une vraie relation. Mais on va en parler un petit peu plus dans la prière. Laissez-moi voir s'il y avait quelque chose d'autre à mentionner. OK, bien juste la définition au niveau de la sagesse. La sagesse de Dieu signifie que Dieu choisit toujours les meilleures fins et les meilleurs moyens pour y parvenir. Dieu n'est pas en train de s'adapter à une situation. Dieu fait tout à perfection selon sa sagesse. Il n'y a pas d'accident. Fondamentalement, là, chacun d'entre vous ici, là, vous pensez que Dieu en échappe une coupe. Vous comprenez ce que je veux dire quand je dis ça? Dans notre quotidien, là, on a de la difficulté à retomber rapidement avec la conviction sur nos pieds puis dire « c'est parfait ». Non, ça fait mal, puis j'ai perdu ma job. C'est pas parfait. Je ne sais pas si Dieu en a échappé une, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, où est-ce qu'il s'en va. Le fait que j'ai perdu ma job, si moi je suis un enfant de Dieu, si la parole de Dieu dit la vérité, tout concourt à mon bien, cette décision-là, là, c'est la meilleure qui pouvait être prise. C'est celle que Dieu a prise. Est-ce que Dieu pouvait prendre une meilleure décision? Si Dieu pouvait prendre une meilleure décision, Dieu n'existe pas. Il faut tout réviser la définition de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne pouvait pas prendre une meilleure décision. Il est parfaitement sage. Donc, tout ce qu'il décide de faire est parfait et les moyens qu'il prend pour y arriver sont parfaits. D'accord? Moi, je décide que la bonne chose à faire, c'est que je retourne aux études. Je décide que la meilleure manière de le faire, c'est de commencer à faire des vols de banque pour financer mes études. Mais non, fait que les moyens ne sont pas bons. Tout ce que Dieu décide de faire, c'est le fruit de sa sagesse. Et les moyens qu'il prend pour y arriver, c'est lui qui les choisit aussi. Hein? Tu choisis où tu veux aller, puis tu choisis comment tu vas y aller. Les deux, c'est le fruit de sa sagesse. Donc, tout ce que Dieu fait, c'est absolument parfait. Moi, je dirais que c'est un des aspects de la personne de Dieu avec lequel, au quotidien, on a le plus de difficultés à vivre. Parce que lorsque tu saisis ces choses-là, il arrive n'importe quoi par la grâce de Dieu, par l'œuvre de l'Esprit dans ton cœur. Ça ne veut pas dire que c'est accepté, mais ta pensée qui vient, c'est « Ah oui, Seigneur, c'est parfait ». Genre, tu m'aides à l'accepter, là, mais c'est parfait. C'est parfait, c'est toi qui l'as voulu. Puis tout concourt à mon bien. Moi, je suis en Jésus-Christ. Tout concourt à mon bien. On va s'arrêter ici. D'accord? Vous avez deux questions à la fin. Des questions pratiques, comme je vous dis, il y en a à chaque leçon. Là, je trouve que Grudem fait un excellent travail avec ça. Pourquoi Dieu déteste-t-il les images taillées, y compris celles qui sont censées le représenter? Comment pouvons-nous représenter Dieu ou penser à lui lorsque nous prions? Si je ne peux pas me faire d'image taillée de Dieu, comment est-ce que je peux l'imaginer? Bien, on a des images qui nous sont données dans les Écritures. Quand devrions-nous essayer de cacher à Dieu nos pensées et actions? En quoi le fait de ne jamais rien pouvoir lui cacher est-il une bénédiction pour votre vie? Il y a vraiment une grâce extraordinaire à méditer sur ça. Je vous dis la deuxième question, là. Pour le quotidien, là, pour nos colères, nos rancunes, nos amertumes, nos convoitises, nos vices, il y a une bénédiction extraordinaire à méditer sur ça. Exode 34, les versets 6 et 7, ce serait le passage à retenir, le passage des Écritures. C'est bon? Alors, la semaine prochaine, on continue. Les notes vont être sur le site web, si elles ne sont pas, très rapidement. Merci.